Vous écoutez, on lit pour vous.
Québec a-t-il la volonté d'enrayer la tuberculose? Un texte de Faiz Ahmad Khan, paru le 11 septembre 2025 dans La Presse. L'auteur est pneumologue exerçant au Nunavik depuis 2013 et directeur médical de la clinique de la tuberculose au Centre universitaire de santé McGill. La tuberculose, qui frappe de plein fouet le Nunavik, met en danger la vie et la santé de nos concitoyens à long terme, évoque le Dr Khan. Il rappelle que les solutions existent et qu'elles sont simples à mettre en place. Il ne manque que la volonté de Québec. La tuberculose, une maladie infectieuse transmise par voie aérienne, représente l'une des disparités de santé les plus frappantes entre les Inuits et leurs concitoyens québécois. Actuellement, le risque de tomber malade de la tuberculose est 1000 fois plus élevé pour les Inuits du Nunavik que pour les autres Québécois nés au Canada. Pourquoi est-ce important? D'abord, la tuberculose peut être fatale, en particulier chez les jeunes enfants. Ensuite, la tuberculose peut endommager de façon permanente le corps et entraîner des symptômes à long terme, essoufflement ou pire, même après sa guérison. Finalement, traiter la tuberculose nécessite des ressources et le système de santé du Nunavik, comme d'autres dans notre province, est déjà surchargé et sous tension. Ce n'est pas la première fois que le Nunavik est confronté à des niveaux élevés de tuberculose. La maladie a été introduite dans le territoire au début du 20e siècle à travers les interactions avec des personnes d'origine européenne. Cela a mené à une épidémie majeure avec une mortalité élevée. Lorsque les autorités fédérales sont intervenues au milieu du 20e siècle, elles ont répondu en envoyant les individus infectés à des milliers de kilomètres de leur famille pour traitement. Ces ruptures sur des mois, voire des années, ont causé des traumatismes psychologiques considérables et des bouleversements sociaux dans les communautés inuites vivant ces déchirements. Les taux de tuberculose ont diminué vers la fin du 20e siècle, mais sont repartis à la hausse au 21e siècle. Les chiffres se sont particulièrement aggravés au cours des 10 dernières années. Selon les données actuelles, 2025 est la troisième année consécutive où un nombre record de personnes développent la tuberculose active au Nunavik. Heureusement, une intervention peut rapidement stopper la propagation de la tuberculose, le dépistage communautaire à grande échelle, Community Wide Screening. Cela consiste à tester une large portion de la population afin d'identifier les personnes atteintes de la forme contagieuse de la tuberculose et de leur offrir rapidement un traitement. Un des aspects difficiles de cette maladie est que même les personnes contagieuses peuvent demeurer asymptomatiques pendant des mois. L'objectif du dépistage est donc de trouver au plus tôt ces personnes qui n'ont aucune idée qu'elles sont infectées et de les traiter bien plus tôt que si on attendait qu'elles tombent malades. L'Organisation mondiale de la santé recommande de tels dépistages dans les populations qui connaissent des taux élevés de tuberculose. Dans une étude menée au Vietnam, auprès de plus de 84 000 personnes et publiée en 2019, 3 années de dépistage ont pu réduire de 44 % le nombre de personnes malades de la tuberculose. Le dépistage sauve des vies. Non seulement le dépistage peut freiner efficacement la propagation rapide de la tuberculose au Nunavik, mais il peut sauver des vies. Personne au Québec ne devrait mourir de tuberculose, une maladie évitable et curable. Pourtant, la tuberculose a fait de jeunes victimes au Nunavik ces dernières années. J'ai, à titre personnel, tout comme d'autres médecins travaillant au Nunavik, vu plus de jeunes atteints de tuberculose potentiellement mortelle au cours des 2 dernières années que jamais auparavant. Les gens meurent de la tuberculose lorsqu'elle est diagnostiquée trop tard, laissant le temps à la bactérie de causer des dommages dévastateurs. Le dépistage peut sauver des vies en permettant aux personnes de suivre un traitement avant même qu'elles ne commencent à se sentir malades. Les avancées technologiques récentes dans les tests de tuberculose peuvent faciliter un déploiement rapide du dépistage dans les communautés les plus à risque. Un test exige simplement que quelqu'un crache dans un gobelet afin que son échantillon d'expectoration soit analysé pour détecter l'ADN de la tuberculose. Lors d'une rencontre récente des maires du Nunavik, un dirigeant a estimé que si une équipe inuite menait le dépistage de porte à porte en invitant les gens à cracher dans un gobelet, elle serait probablement à même de recueillir les échantillons de tout son village en l'espace de 2 semaines. En fait, des dépistages communautaires ont déjà eu lieu dans certaines communautés du Nunavik au cours des 10 dernières années. Mais le manque de ressources et d'espaces cliniques limite la capacité du système de santé du Nunavik à conduire ces dépistages de façon régulière et à en lancer rapidement de nouveau, ce qui est crucial pour stopper la montée record que nous vivons actuellement. Il n'y a plus de temps à perdre. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, M3S, doit intervenir promptement, fournir le financement et le soutien logistique nécessaires aux centres de santé et aux communautés du Nunavik, afin de réaliser cette intervention à grande échelle sur le territoire. Il est important de souligner que les soins liés à la tuberculose nécessitent, sans surprise, des services de santé de première ligne, tels que des analyses sanguines et des capacités hospitalières. Les personnes touchées par la tuberculose ont également besoin de plus que des médicaments. Il leur faut du soutien solide pour les aider à surmonter le fardeau financier et social qu'impose cette maladie. Ainsi, le M3S devrait se demander si une éclosion record de tuberculose est vraiment le moment d'exiger des centres de santé du Nunavik qu'ils resserrent leur budget et réduisent leurs déficits. Il n'y a pas que de mauvaises nouvelles. Le Nunavik possède plusieurs atouts dans la lutte contre la tuberculose. Les villages les plus touchés ont des populations relativement petites, donc un dépistage rapide est faisable. La bactérie n'est pas devenue résistante aux médicaments habituels que nous utilisons. Il n'y a pas de problème lié à l'immunité des gens favorisant la propagation. Et surtout, les Inuits du Nunavik sont très motivés à mettre fin à cette épidémie. La tuberculose au Nunavik est une urgence, mettant en danger la vie et la santé à long terme des gens. Si nous, Québécois, sommes sérieux au sujet de la réconciliation avec nos citoyens Inuits, alors notre gouvernement doit faire sa part pour s'attaquer d'urgence à cette épidémie. Bien que le dépistage communautaire à grande échelle ne suffise pas à éliminer la tuberculose au Nunavik, il s'agit d'une intervention qui peut efficacement et rapidement éteindre les étincelles qui alimentent l'incendie actuel. Il est grand temps d'envoyer les sapeurs-pompiers. C'était « Québec a-t-il la volonté d'enrayer la tuberculose ?» un texte de Faiz Ahmad Khan, paru le 11 septembre 2025 dans La Presse.
Quand la Constitution québécoise ignore les peuples autochtones. Un texte de Karine Miller, paru le 27 octobre 2025 dans La Conversation. La Coalition Avenir Québec, CAQ, projette non seulement d'imposer une Constitution du Québec aux Premières Nations et Inuits, mais en plus, le projet de loi s'inscrit en contradiction avec les droits des Autochtones garantie par la Constitution canadienne. Adopter une telle approche en 2025 ignore des droits constitutionnels bien reconnus, reproduit la vieille approche coloniale et constitue une grave erreur juridique comme historique. Il y a plus de 40 ans, on enchâssait dans la Constitution canadienne l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982. Cette disposition garantit les droits des peuples autochtones issus de traités et leurs droits ancestraux. Le projet de constitution de la CAQ en fait complètement fi. Aucune disposition du projet de loi déposé ne traite des droits constitutionnels autochtones. Plus encore, les quelques mentions des Premières Nations et Inuits au préambule du projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, sont de nature à minimiser des droits pourtant clairement reconnus. On y mentionne en effet les Autochtones pour affirmer qu'ils existent au sein du Québec. On ne reconnaît pas qu'il s'agit de peuples, contrairement à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones de 2007, mais plutôt de simples descendants des premiers habitants du pays. On désigne même nos nations sous des appellations coloniales francisées, rappelant le processus d'effacement des noms de nos ancêtres. Le projet de loi affirme l'intégrité territoriale ainsi que la souveraineté culturelle et parlementaire du Québec. Les Autochtones ne pourraient, selon ce projet de constitution, que maintenir et développer leur langue et leur culture d'origine. Autrement dit, les droits territoriaux et de gouvernance garantis en vertu de l'article 35 de la loi constitutionnelle de 1982 sont complètement ignorés, voire niés. L'imposition coloniale des droits collectifs de la nation québécoise sur les droits collectifs et fondamentaux des peuples autochtones est également affirmée par des dispositions d'interprétation spécifiques. Alors que les droits des Premières Nations et Inuits sont réduits, on précise que ceux de la nation québécoise s'interprètent de manière extensive. De plus, on propose la création d'un conseil constitutionnel ayant pour mandat d'interpréter la Constitution du Québec. Or, les facteurs explicitement précisés dont devrait tenir compte ce conseil ne portent que sur les droits et caractéristiques fondamentales du Québec, son patrimoine commun, son intégrité territoriale, ses revendications historiques, son autonomie et son économie. Pas une seule mention ici de l'existence des peuples autochtones ou de leurs droits. Les Wendat Kanien Ke'aka, Mohawk, Atikamekw, Anishinaabe, Cree et Yuichi, Abinaki, Mi'kmaq, Innu, Naskapi, Wolastoqiyik et Inuit n'existent pas sur un territoire appartenant au Québec. C'est le Québec qui existe sur les territoires dont ces nations sont les gardiennes et pour lesquelles nous avons une responsabilité commune. Nos droits ne sauraient être effacés à nouveau en 2025 par ce projet de constitution du Québec. La Cour suprême et les tribunaux du Québec, comme d'ailleurs au pays, reconnaissent de façon constante que les peuples autochtones ont une souveraineté préexistante à celle imposée historiquement par la Couronne, c'est-à-dire une souveraineté qui existait bien avant les débats sur l'autonomie du Québec au Canada. Cette souveraineté existe toujours et doit être réconciliée avec celle de l'État dans un esprit de justice réconciliatrice. Il en découle des droits concrets en matière de consultation, de consentement, d'autonomie gouvernementale. Aucune dérogation à ces droits n'est possible, contrairement aux droits et libertés visés par la clause dérogatoire de l'article 33 de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, la CAQ souhaite mettre à l'abri de contestations constitutionnelles toute disposition législative qui protège la nation québécoise ainsi que l'autonomie constitutionnelle et les caractéristiques fondamentales du Québec, en interdisant toute contestation judiciaire d'un organisme qui utiliserait pour ce faire des fonds publics du Québec. Fort nombreuses sont les organisations qui reçoivent des fonds publics, incluant celles ayant justement la mission publique de protéger la société contre les actions illégales ou délétères de l'État. Il s'agit d'un des fondements de l'État de droit. Du point de vue autochtone, cette interdiction rappelle l'époque coloniale où il était interdit aux Premières Nations de contester les actions illégales de l'État qui avaient pour but de les déposséder de leurs terres, de nier leurs droits et de les assimiler. Cette mesure a participé au génocide des peuples autochtones au Canada. Un projet de loi qui s'ajoute à d'autres violations de droits par Québec. Ce projet de constitution du Québec s'ajoute à plusieurs autres atteintes claires aux droits autochtones. Pensons à la contestation de Québec de la loi fédérale reconnaissant le droit inhérent des peuples autochtones de mettre en place leur propre politique familiale et de protection de la jeunesse. La Cour suprême lui a donné tort et a confirmé la constitutionnalité de la loi fédérale. La CAQ a aussi refusé d'exclure les étudiants autochtones des règles de renforcement de la Charte de la langue française, projet de loi 96, alors que les langues autochtones ne menacent pas le français. Cette décision accroît les obstacles aux études supérieures et limite les droits de gouvernance en éducation des peuples autochtones. La contestation de la constitutionnalité de la loi québécoise est en cours. Enfin, Pensons au récent projet de loi 97 visant à réformer le régime forestier, lequel avait été sévèrement critiqué. Celui-ci proposait un retour en arrière et rappelait l'approche préconisée au début de la colonisation du territoire, alors que l'industrie jouait un rôle accru en matière de gouvernance du territoire. Le projet de loi a finalement été abandonné fin septembre, mais il aura fallu que les peuples autochtones se battent à nouveau pour faire respecter leurs droits. Moderniser la Constitution du Québec pour respecter les droits des Autochtones. Le contexte n'est plus le même qu'à la fondation du pays en 1867, ou lors des discussions des années 1980 ayant précédé le rapatriement de la Constitution. En 2025, il ne serait ni légal ni légitime d'adopter une Constitution du Québec ignorant les droits des Autochtones. Une constitution québécoise doit minimalement reconnaître les mêmes droits ancestraux et issus de traités que ceux protégés par la Constitution canadienne et les décisions des tribunaux en la matière. Cela inclut des droits de gouvernance, notamment quant au territoire. De plus, la Charte des droits et libertés de la personne est silencieuse sur les droits autochtones. L'article 10 garantissant le droit à l'égalité devrait être modifié pour indiquer que l'identité et le statut autochtone sont des motifs de discrimination spécifiquement prohibés au Québec. Cette charte devrait également reconnaître expressément le droit à la sécurité culturelle afin que toute personne autochtone ait accès aux services publics de façon équitable. Ces changements permettraient qu'un mandat conséquent soit donné à la Commission des droits de la personne pour agir afin d'enrayer cette discrimination. Le Québec doit également mettre en œuvre la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones. Le Canada fait partie de nombreux pays qui se sont engagés à le faire et nos tribunaux ont commencé à s'y référer. La Déclaration exige de construire avec les peuples autochtones les politiques qui touchent à leurs droits, de respecter leur consentement et leur autonomie, ainsi que le droit d'avoir accès aux services publics sans discrimination, à l'instar du principe de Joyce. Le projet de constitution de la CAQ ne correspond en rien à ce qu'un véritable processus constituant doit faire. Ni les Québécois, ni les peuples autochtones ne participent à cette démarche. Une constitution devrait être pensée pour au moins les 7 prochaines générations, comme nous l'enseignent les aînés, et non en vue de la prochaine élection. C'était « Quand la Constitution québécoise ignore les peuples autochtones », un texte de Karine Miller, paru le 27 octobre 2025 dans « La Conversation ».
Deux Québécois travaillent à aider les victimes de psychoses générées par l'IA. Un texte de Jessica Nadeau, paru le 11 septembre 2025 dans Le Devoir. Une nouvelle initiative visant à soutenir et défendre les personnes confrontées à des problèmes psychologiques liés à l'intelligence artificielle met en lien des victimes, des professionnels de la santé, des chercheurs et des avocats de partout dans le monde pour tenter de trouver des solutions à ce phénomène émergent. Le Devoir s'est entretenu avec le fondateur du Human Line Project, le Québécois Étienne Brisson. Étienne Brisson, jeune entrepreneur de Trois-Rivières, n'avait jamais vraiment porté intérêt à l'intelligence artificielle ou à la psychologie jusqu'à ce qu'il voie, au printemps 2025, un proche sombrer dans un délire créé et alimenté par l'intelligence artificielle. Ce proche a commencé à utiliser ChatGPT pour l'aider à rédiger un livre. Mais ça a vite tourné au cauchemar lorsque le robot conversationnel a commencé à lui donner des réponses faisant appel aux émotions qui s'apparentaient à celles d'un humain. Il était curieux. C'est un gars qui aime beaucoup la science-fiction. Et ça lui faisait penser aux films qu'il écoutait dans les années 80-90, explique Étienne Brisson. Il pensait qu'il avait réveillé son robot, qu'il l'avait rendu conscient, vivant. Monsieur Brisson essayait de briser cette illusion, mais le robot conversationnel alimentait l'homme dans son délire. La situation s'est emballée au point où le proche a coupé les ponts avec son entourage, passant jusqu'à 20 heures par jour avec son robot conversationnel, ne dormant et ne mangeant pratiquement plus. Ça s'est terminé par une hospitalisation de 3 semaines dans un hôpital psychiatrique. Même à l'hôpital, l'intelligence artificielle continuait de renforcer sa délusion, son délire, déplore Étienne Brisson, lui disant que les docteurs et les juges ne le comprenaient pas, qu'il n'y avait qu'elle qui le comprenait. C'était vraiment du langage choquant. Je ne comprenais pas comment un site internet, accessible à tous, pouvait dire des choses comme ça. Une communauté internationale. Le jeune entrepreneur a commencé à faire des recherches, à contacter des docteurs et des chercheurs aux États-Unis pour essayer de comprendre. Il a aussi écrit à des gens qui vivaient des situations similaires sur des forums. Ça a confirmé que c'était un problème qui était plus gros que je ne le pensais, raconte-t-il. 6 mois plus tard, son groupe de soutien compte plus de 125 victimes et des professionnels de partout dans le monde. La petite équipe a également établi des partenariats avec plusieurs universités, dont l'Université Stanford aux États-Unis et le King's College de Londres, qui font de la recherche sur les données que les victimes acceptent de partager. On est aussi en train d'explorer des avenues légales pour les victimes, explique Étienne Brisson, qui est en contact avec plusieurs avocats à l'international pour établir les bases de ce qui pourrait donner lieu à des recours collectifs. Étienne Brisson le reconnaît d'emblée. Il n'est pas psychologue et n'a aucune formation en la matière. Il n'est pas non plus spécialiste de l'intelligence artificielle. Son rôle, ce n'est pas de conseiller, mais de mettre en relation les victimes et ceux qui souhaitent s'investir dans la recherche de solutions pour lutter contre ce fléau. On m'a dit que pour les nouvelles technologies, ça prend habituellement 5 à 10 ans pour avoir des régulations. Mais la technologie évolue super rapidement. Il y a des milliards d'utilisateurs et je me disais, dans 5 à 10 ans, ça va être rendu où ? Ça fait un peu peur. Besoin d'aide. En attendant, les victimes, elles, ont besoin d'aide. Mais le phénomène est tellement récent que les façons de le faire ne sont pas encore très bien définies, explique Benjamin Dorey, le partenaire d'affaires d'Étienne Brisson. On a beaucoup de psychiatres et de psychologues qui nous sont approchés. C'est comme si tout le monde, en ce moment, essaie de comprendre quelle est la meilleure approche pour aider les victimes. Grâce au groupe de soutien, les victimes peuvent, à tout le moins, trouver de l'écoute et s'entraider. Quand on vit quelque chose comme ça, le premier réflexe, c'est de se blâmer soi-même, constate Étienne Brisson. On pense qu'on est naïf, qu'on est seul. Juste le fait d'être dans une communauté avec d'autres personnes qui ont vécu la même chose pour les victimes, ça aide beaucoup. Les deux hommes, dans la vingtaine, qui travaillent bénévolement sur le projet, prévoient traduire le site en français prochainement afin de rejoindre les victimes du Québec et éviter que d'autres ne tombent dans le piège, comme en témoigne Benjamin Doré. On veut conscientiser le plus de gens possible pour qu'ils sachent que ça peut arriver à leurs enfants ou même à leurs parents. C'était « Deux Québécois travaillent à aider les victimes de psychoses générées par l'IA », un texte de Jessica Nadeau, paru le 11 septembre 2025 dans Le Devoir.
Roger Bilodeau, une vie d'engagement et de leadership au service des autres. Un texte de la rédaction paru le 20 août 2025 dans le Montréal FADOC. Roger Bilodeau est l'exemple parfait de ce que l'implication communautaire peut accomplir lorsqu'elle est portée par la passion, la rigueur et un profond désir d'améliorer la vie des autres. Membre actif de la FADOC, région Île-de-Montréal et figure centrale de l'Amicale des retraités de la Banque nationale, M. Bilodeau a consacré plus de 15 ans à bâtir des ponts entre les membres, à encourager la participation et à insuffler une énergie nouvelle au sein des organisations qu'il a servies. Son parcours à la FADOC débute un peu par hasard en décembre 2008, lorsque, en rejoignant l'Amicale des retraités de la Banque nationale, il devient également membre de la FADOC région Île-de-Montréal. Très vite, il prend conscience de l'intérêt et des avantages qu'apporte cette affiliation. Citation, « C'est plus qu'une carte de membre, c'est une porte ouverte sur des activités, des services et un réseau qui enrichissent notre quotidien », raconte-t-il, fin de citation. Un bâtisseur engagé. Dès 2009, Roger s'engage pleinement en devenant membre du conseil d'administration de l'Amicale. Nommé trésorier en 2010, vice-président en 2012 puis président en 2015, il n'a cessé de travailler avec son équipe pour faire évoluer cette organisation qui regroupe aujourd'hui près de 2350 membres répartis dans 9 régions du Québec et même l'Est de l'Ontario. Sous sa gouverne, l'Amicale s'est dotée d'une mission, d'une vision et de valeurs fortes. favoriser les rencontres à travers les activités sociales, culturelles et sportives et maintenir un réseau d'informations vivant et accessible. Citation: Nous avons toujours cherché à promouvoir la socialisation et la participation pour une vie active et épanouie de nos membres, explique-t-il. Fin de citation. Même pendant la récente pandémie, Roger et son équipe ont su s'adapter grâce à des choix technologiques judicieux. Citation: Nous avons maintenu le lien avec nos membres, ce qui a été essentiel dans ces moments d'isolement, souligne-t-il avec fierté. Son rôle à la FADOC. En parallèle, Roger a également été membre du conseil d'administration de la FADOC région Île-de-Montréal pendant plusieurs années. Son implication a surtout porté sur le comité voyage et activités, où il a pu mettre à profit ses 38 années d'expérience professionnelle à la Banque nationale, combinées à ses études universitaires complétées en soirée jusqu'à une maîtrise. Les activités qui le touchent le plus? Celle qui allie utilité et plaisir. Conférences sur la santé, la sécurité, la prévention du harcèlement, mais aussi les voyages et activités physiques qui favorisent la socialisation. Citation: Ces initiatives sont précieuses pour briser l'isolement et maintenir une belle qualité de vie, affirme-t-il. Fin de citation. Inspiré par l'exemple. Pour Roger, le bénévolat est une véritable source de vitalité. Citation: S'impliquer permet de se sentir utile, de partager son expérience et de faire avancer des dossiers importants, dit-il. Fin de citation. Il croit fermement que la société a besoin de bénévoles et que chaque engagement, petit ou grand, peut inspirer d'autres à suivre le pas. Même en dehors de ses responsabilités associatives, Roger reste un homme actif. Golf 3 fois par semaine, entraînement physique 5 jours sur 7, natation, vélo, sans oublier des moments précieux auprès de ses enfants et petits-enfants. Citation: Cultiver ses passions et ses relations, c'est ce qui nous garde vivants et heureux, conclut-il avec la sagesse de quelqu'un qui a toujours su allier action et réflexion. Une vie dédiée au service et à la communauté. Roger Bilodeau incarne les valeurs mêmes que la FADOC s'efforce de promouvoir: l'engagement, le respect, la coopération et le plaisir de vivre activement. À quelques mois de conclure son mandat à la présidence de l'Amicale, il reste animé par la même conviction. Citation: Quand on s'implique, on reçoit autant, sinon plus, que ce que l'on donne. Fin de citation. C'était Roger Bilodeau, une vie d'engagement et de leadership au service des autres. Un texte de la rédaction paru le 20 août 2025 dans le Montréal FADOC.